France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City's and in the house.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Es.
Un jour dans le monde, c'est un jour entre l'Iran et les États-Unis ce soir.
Harakatis.
Et celui qu'on entend, c'est l'ayatollah Ali Khamenei, donc le guide suprême iranien, qui dit aujourd'hui, entamer les négociations est une décision que nous avons prise, qui est en train d'être mise en œuvre. Les lignes rouges sont claires pour nous et pour l'autre partie. Les négociations peuvent ou non aboutir à une conclusion. Bonsoir David Rigoli-Rose.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégie. On va rappeler juste brièvement un épisode précédent. Le premier cycle des négociations entre les États-Unis et l'Iran s'est donc achevé samedi à Oman. Un autre va être entamé en fin de cette semaine, samedi prochain, 7 ans après que Trump 1 ait fait sauter les accords de Vienne conclus avec Obama. Quand Donald Trump lundi a annoncé qu'on recommençait aux États-Unis à parler avec l'Iran, il avait Benjamin Netanyahou à côté qui a eu l'air étonné. Est-ce qu'on peut imaginer un début de discussion sans qu'Israël soit au courant réellement ?
En tout cas, le président Donald Trump ne veut pas se sentir les mains liées justement par le paramètre israélien, même s'il affiche un soutien affirmé au Premier ministre, qui effectivement, semble-t-il, a été un peu surpris de l'annonce telle qu'elle a été effectuée. Alors, il se doutait bien qu'il y avait de toute façon des velléités américaines de relancer les négociations, mais on peut s'interroger effectivement sur les attendus de cette annonce, au regard de sa surprise apparente.
Bah, ça veut dire qu'Israël quoi, attend l'échec, ou se dit « je n'ai plus la main », ou se dit « de toute façon, dans 3 semaines, je pourrais, ou dans 1 mois, ou dans 2 mois, y aller avec ma stratégie. La stratégie israélienne, c'est de frapper. »
Oui, mais le problème, c'est que les Israéliens ne peuvent pas le faire seuls.
Sans les Américains.
Ils ont besoin d'un soutien américain. Et donc, la position israélienne, elle est inchangée. C'est une demande de démantèlement du programme complet, ce que ne peut pas accepter, évidemment, Téhéran. Démantèlement sur le modèle libyen, c'est-à-dire le démantèlement de toute la filière, et non pas le maintien d'un enrichissement au moins civil.
Donc, c'est la fameuse ligne rouge dont parlait
la fameuse ligne rouge. Alors, il y a plusieurs lignes rouges de part et d'autre, mais effectivement, cette première réunion entre Steve Witkoff, qui est son envoyé spécial, c'est un peu le factotum de Donald Trump. Il est très proche de lui.
Ouais.
Il a toute sa confiance. C'est pas le secrétaire d'État qui est allé. Donc, c'est assez significatif parce qu'il reconnaît lui-même, d'ailleurs, qu'il n'est pas un expert de la question. Alors qu'en face, alors pour le coup, en face, chez les Iraniens, il y a des pointures, notamment Abbas Araghchi, qui est très expérimenté. Il avait déjà été partie prenante d'ailleurs de l'accord de 2015. Donc, on voit bien qu'on arrive à un moment charnière avec beaucoup de confusion, malgré tout, même si il semblerait qu'il y ait de part et d'autre le souhait d'avancer dans un processus diplomatique.
Alors, 2 choses. D'habitude, on a entendu Khamenei à l'instant dire « c'est nous qui avons pris l'initiative ». Est-ce que oui, ce sont les Iraniens qui ont pris l'initiative de ces discussions, ou est-ce que ce sont les Américains qui sont à l'origine du dialogue ?
C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que les Iraniens considéraient qu'ils n'avaient plus le choix. C'est-à-dire que c'était compte tenu de l'évolution de la situation régionale depuis 2024, notamment.
Ouais, depuis le 7 octobre, pour dire les choses.
L'affaiblissement, sinon la désintégration de l'axe des mandataires. Il y avait un débat qui ressurgissait à Téhéran sur l'opportunité justement du nucléaire militaire pour sanctuariser le pays. Et ce qui était évidemment inaudible du côté de Washington, et encore plus du côté israélien. Donc il y a eu l'idée qu'il y avait une logique d'urgence qui prévalait, même s'il y avait en termes d'affichage le souhait de montrer que la fierté nationale iranienne n'allait pas se soumettre.
Alors, fierté nationale iranienne, logique d'urgence, effectivement, mais vous l'avez dit, quand on regarde ce qui reste de l'Iran aujourd'hui, qui est bien plus affaibli qu'elle ne l'était, notamment quand les premiers accords ont été signés, il n'y a plus de Hezbollah ou presque, il n'y a plus de Syrie à côté. Est-ce que au fond, l'Iran est nu dans ces négociations-là, et c'est comme ça qu'on avance, au-delà de tout ce que peuvent dire les Iraniens? Est-ce que l'Iran est nu?
L'Iran est très affaibli, à la fois sur le plan intérieur, parce qu'il y a une contestation qui ne se dément pas, depuis la mort de Mahsa Amini, et à l'extérieur, pour les raisons que vous évoquez. Mais l'Iran n'est pas totalement nu, parce qu'il y a ce capital, justement, sur le nucléaire, notamment avec un enrichissement qui s'est poursuivi après la sortie, justement, de Donald Trump, qui était une erreur, compte tenu de ce qu'il voulait empêcher, qu'en fait, il a rendu possible. Et aujourd'hui, l'Iran disposerait de près de 275 kilos d'uranium enrichi à 60%, ce qui n'était pas du tout le cas, évidemment, en 2015, où on avait accepté un enrichissement civil à 3,67. Donc là, ce capital, de toute façon, il est tangible. Et puis, il y a un autre capital, c'est le savoir-faire, qui est irréversible. Donc, la situation est tout à fait différente de celle de 2015. Elle est beaucoup plus compliquée à bien des égards.
Qu'est-ce qui se passe? En fait, le donnant-donnant, c'est quoi? On entend Donald Trump, mais dans son discours habituel, c'est le deal ou la guerre, en gros, c'est ce que dit Donald Trump. Mais on sait aussi que politiquement, Trump, c'était dans ses promesses de campagne, a dit qu'il n'ouvrirait pas d'autres fronts, il n'y aura pas d'autres guerres. Donc, c'est difficile d'imaginer qu'il ira frontalement contre l'Iran. Est-ce que ça veut dire que les Iraniens sont en train de gagner du temps, là, en ce moment, et que leur stratégie, c'est exactement ça? On ouvre les négociations, mais on sait qu'on a un temps infini devant nous.
Alors, d'autant plus que le président Donald Trump dit qu'il veut faire vite. Or, on ne peut pas faire vite sur un dossier de...
Il reste très peu de temps avant un accord,
oui,
ça n'a pas de sens.
Alors justement, et ça c'est ce qui inquiète les Israéliens, il reste très peu de temps pour une raison très simple, c'est qu'officiellement le JCPOA, c'est-à-dire l'accord sur le nucléaire qui avait été établi en 2015, il arrive à échéance, formellement, même s'il a été vidé de sa substance, en octobre 2025. Or, qui était prévu par la résolution 2232-31, il y a la possibilité de restaurer des sanctions internationales, par un mécanisme qui s'appelle le snapback, ça peut être fait avant. Après, ça ne sera plus possible. Mmh. Donc évidemment, c'est un jeu du chat et de la souris de toutes les parties, parce que chacun voudrait aboutir à quelque chose qui lui soit favorable, mais avec des contreparties qui vont être impliquées, et c'est là où en réalité le test sur les lignes rouges va être posé.
Alors justement, qu'est-ce que chacun met dans la balance, en fait? Parce que si la ligne rouge de l'Iran, effectivement, c'est de ne pas toucher aux installations, quitte à autoriser, j'imagine, une inspection, c'est à ça que ça peut ressembler, et que la ligne rouge américaine, c'est de dire, vous démantelez intégralement vos installations, quitte même à les installer en dehors du territoire iranien.
Ouais, il y a notamment, par exemple, le problème des transferts de l'uranium à 60%. Les Américains disent ce serait bien... C'était d'ailleurs une option en 2015, en Russie.
Ouais.
Or, les Iraniens disent pas question. Donc on voit bien qu'on commence à buter sur des obstructions concrètes, parce qu'effectivement les enjeux sont considérables. La position de base c'était le démantèlement, c'était le fait que l'Iran n'ait pas la bombe. Mais évidemment l'Iran est très très avancé, ce qu'il n'était pas en 2015. C'est bien le problème, la quadrature du cercle pour le président Donald Trump, qui se présente comme un président qui ne veut pas lancer de guerre, mais en même temps qui veut empêcher l'Iran de militariser un programme. Or l'Iran est déjà une puissance du seuil aujourd'hui. Donc la question, elle est, quelle va être la base de la transaction.
Et en même temps, on se rend bien compte que il y a quand même une volonté de part et d'autre, parce que cette question en ces termes-là, Monsieur Regulérose, elle n'a pas été posée après la première réunion de samedi, précisément, j'imagine, pour qu'il puisse y en avoir une autre samedi prochain. Frontalement, personne, pour l'instant, n'a prononcé les mots qui fâchent, et même dit ouvertement, en tout cas face l'un à l'autre, voici mes lignes rouges.
Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que c'était une réunion préliminaire, on va dire, pour sonder, chacune des deux parties voulait sonder l'autre pour savoir si un processus de négociation était viable. Il semblerait que ça soit le cas, mais effectivement, il y a un moment où Steve Witkoff reconnaît qu'il n'est pas un expert de la question, les questions techniques...
Ce qui est d'ailleurs une manière bizarre d'arriver dans une négociation,
oui,
de vous à moi.
Et c'est là-dessus que peuvent capitaliser les Iraniens, qui eux sont très expérimentés. D'ailleurs, ce qui est significatif, c'est qu'il n'a pas envoyé Mike Wiles, les faucons en réalité, ceux qui sont sur une ligne très dure. Il a envoyé Donald Trump, il a envoyé Steve Witkoff. Donc, c'est très ambigu, on va dire, très confus finalement, comme environnement, comme écosystème de négociation.
Juste avant que ça commence, l'Iran a eu quelques mots avec la Russie, vraisemblablement, pour aller chercher quoi, en fait? Pour leur dire, attention, on va devoir accepter pour telle et telle raison, ou au contraire, on sait qu'à un moment, Trump comptait sur la Russie, c'est même Poutine qui avait dit à Donald Trump, si tu veux, je t'aide à convaincre les Iraniens.
Oui, donc ça fait partie, effectivement, des éléments de langage de Moscou. Ce qui est sûr, c'est que Moscou, en réalité, comme la Chine d'ailleurs, ne souhaite pas que l'Iran ait la bombe. C'est inévident. Mais en même temps, c'est une carte à jouer justement dans la dialectique internationale et le repositionnement comme puissance de Moscou. Donc il y a un accord d'ailleurs de partenariat stratégique entre Moscou et Téhéran, mais Vladimir Poutine a pris soin qu'il n'y avait pas d'accord militaire, c'est-à-dire d'accord de défense. Justement, il faut se garder, chacun veut se garder une marge de manœuvre par rapport à un potentiel conflit ouvert.
Savons-nous s'il y a des tiraillements à l'intérieur de l'appareil d'État iranien entre ceux qui de toute façon ne veulent jamais jamais négocié et ceux qui pensent qu'il faut négocier parce que ça risque de soulager un peu l'intérieur du pays.
Ah, il y en a, ils sont très forts, des tiraillements très forts qui ont surnagé. Ils ont été même rendus publics entre les intransigeants. Alors, une partie du corps des gardiens de la Révolution qui sont dans une posture très agressive, une partie de ce qu'on appelle le parti Païdaris, c'est-à-dire les ultras, et puis les réformistes, mais qui avaient été marginalisés. Et au milieu de tout ça, il y a le guide, qui est censé être la boussole, parce que c'est lui qui incarne de toute façon en dernier ressort la décision. Et il a tergiversé dans ses déclarations pour finalement avaliser le principe de négociation qui est préempté par le ministère des Affaires étrangères. C'est-à-dire la base rationnelle du système pour parvenir à un accord qui soit favorable aux intérêts nationaux iraniens.
Si jamais il y avait une forme d'accord et qu'une partie des sanctions au moins était levée, est-ce que vous avez le sentiment que, parce que c'est aussi, j'imagine, ce qui tiraille l'intérieur de l'Iran, est-ce que vous avez le sentiment que si une partie des sanctions sont levées, l'intérieur du pays, donc ce qui secoue en ce moment depuis Mahsa Amini, risque d'être plus calme, en gros, ou est-ce que c'est un leurre, ça ? Est-ce que c'est ce que s'imaginent même certains dignitaires iraniens ?
Alors, c'est le pari, évidemment, du régime Nezam, le système iranien. C'est un pari dangereux, parce qu'en réalité, l'effritement de la légitimité du régime, aujourd'hui, est très très avancé. Donc, mais effectivement, il y a un pari maximaliste d'aller à l'affrontement pour les ultras, et un pari à la chinoise d'essayer de lever les sanctions pour redonner une vie économique acceptable à la population qui paye la double peine en réalité aujourd'hui.
Si les négations se passent mal, si il y avait des tirs américains ou des tirs israéliens, enfin s'il se passait quelque chose, la capacité aujourd'hui de l'Iran de répliquer, elle se situe où ? C'est pas avec les outils du Yémen qu'on arrive à faire une réplique, si ? Comment ça se passe ?
Non, c'est d'ailleurs pour ce qui pousse l'Iran à négocier.
Parce du coup, la réplique serait quoi ?
D'autant plus, la réplique ce serait surtout le balistique et éventuellement le fait, ce qui a été dit explicitement d'ailleurs, de menacer tous les pays régionaux. Les pays arabes, justement, alliés des Américains dans la région, ce qui inquiète beaucoup, évidemment, les Émirats, l'Arabie Saoudite, parce qu'ils seraient aux premières loges, si j'ose dire, d'une réplique éventuelle, justement, de l'Iran.
Si on additionne, David Rigoulet-Rose, avec les Américains, il y a d'abord eu l'Ukraine, et on sait comment ça s'est terminé, même après l'épisode du Bureau Ovale. Il y a eu Gaza, et on sait aussi quels ont été les mots de Donald Trump, et puis depuis, on n'en entend guère parler. Et maintenant, donc, il y a l'Iran. La stratégie de Trump, on l'a bien compris, il met les mains partout, il fait des déclarations qui sont des déclarations fracassantes, et puis, il ne se passe pas grand-chose. Est-ce que c'est la chronique d'un échec annoncé aussi de ce point de vue-là ? Ces négociations, à votre sens ou pas ? En gros, c'est un facteur. À un moment, le fait que ça vienne de Trump, c'est un facteur.
C'est un facteur objectif, mais vraisemblablement, dans la dynamique de négociation de Trump, il y a l'appétit du business. C'est l'idée que lever, c'est là-dessus que les Iraniens sont très habiles, en laissant miroiter la possibilité d'un accès au marché iranien. Et Trump, sont des étoiles dans les yeux, évidemment. Et ça fait partie de sa logique transactionnelle. Qui minore de ce point de vue-là, à ce moment-là, les intérêts stratégiques qui dépassent évidemment des intérêts purement mercantiles.
Là, pour l'instant, les négociations sont dites indirectes. Est-ce qu'on est quand même à deux doigts de vraies négociations directes, d'un vrai
face-à-face ? Oui, alors il y a eu une rencontre directe, dite fortuite, entre Abbas Araghchi et puis
Steve Witkoff. Ils se sont croisés dans le hall de l'immeuble,
de l'hôtel. Dans le hall, à l'issue. De toute façon, à un moment, pour que ça soit sérieux, il faudra que ça soit direct. Mais les Iraniens veulent préserver, par fierté nationale, le fait que, il faut quand même rappeler que les États-Unis sont considérés comme le grand Satan. Donc, négocier avec le grand Satan, ça ne va pas de soi, même en termes d'image.
Et même, donc, loin des États-Unis, David Rigoulet-Rose, merci beaucoup. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS et vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. La suite ce soir, c'est le reportage d'un jour dans le monde, dans l'œil devant, l'œil le plus grand du monde, un télescope géant qui a quelques soucis aussi, vous allez le comprendre. Pour aller jusqu'à 19h, il y a Lise Rosevail sous les radars.
On va notamment aller en Inde, au Kerala, où un aéroport a interrompu tous ses vols pour laisser passer une procession hindoue.
Alexandre Jublin, Le Monde à 18h50. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Fabienne, on va se demander pourquoi le secrétaire à la défense américain pose tout le temps des photos de lui en train de faire des pompes.
Le Monde et Caroline au pays des 27 qui ouvre les portes de l'Europe. Salut Caroline.
On retrouve retrouve Raphaël Carghéno. Il traque les problèmes de corruption à Bruxelles. Il y a un an, il disait qu'il n'y avait pas eu assez de réformes depuis le Qatar Gate. Eh bien, bim, depuis, nouveau scandale.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète commence à peine. Il passe par les États-Unis, un petit peu par Liverpool aussi, avec Jalen Ngonda. Il est né dans le Maryland, il vit en Angleterre. Chez les Beatles, Just As Long As We're Together, c'est en playlist sur Inter. Reportage d'un jour dans le monde ce soir nous emmène au Chili, dans le désert d'Atacama, où se construit le plus grand télescope de la planète. Son miroir fait 39 mètres de diamètre, il a déjà été baptisé l'œil le plus grand du monde. C'est l'Observatoire européen Austral qui est à l'origine de ce projet, fondé il y a plus de 60 ans par 6 pays européens, dont la France. Ce télescope permettra aux astronautes, en tout cas c'est bien ce qu'ils espèrent, de révolutionner l'exploration cosmique et pourquoi pas de trouver une autre planète similaire à la Terre. Pour ça, le désert d'Atacama, c'est le meilleur endroit du monde, mais il y a un mais. Je vous laisse découvrir ce qui menace le meilleur ciel du monde. Le reste, c'est Nalia de Rouanet qui raconte.
En plein désert, à 2 heures en voiture de la ville la plus proche, on se croirait sur la planète Mars. Il n'y a que des rochers et de la terre couleur ocre, mais soudain, sur le sommet d'une montagne dégarnie, une grosse boule métallique apparaît.
Et le voilà, le géant télescope, le futur joujou XXXXL des astronomes.
On est sur le sommet Amazonès, à 3000 mètres d'altitude.
Laura Ventura est la chargée de communication à l'Observatoire européen austral qui construit le géant télescope.
Le haut du sommet où on se trouve n'était pas constructible à la base. Il a donc fallu l'aplanir pour ensuite installer la plateforme du télescope. Rendez-vous compte, la simple structure de l'édifice mesure 87 mètres de diamètre.
On va retrouver Guido Vecchia, le responsable du chantier, pour continuer la visite du télescope.
Sous un dôme de 80 mètres de haut se dresse une gigantesque structure métallique. C'est ici que se trouvera le géant télescope, explique Guido Vecchia.
Toute cette partie triangulaire, ça va être la cellule du M1. C'est là que seront posés les 800 segments du miroir principal. Ce miroir aura la plus grande superficie jamais construite pour capturer la lumière. Environ 1000 mètres carrés et un diamètre de 39, presque 40 mètres. Ce sera de loin le plus grand télescope optique au monde.
À quelques kilomètres du chantier, sur le sommet Paranal, se trouvent les autres télescopes de l'Observatoire européen. Dans la salle d'opération, sur des écrans, les astronomes scrutent l'univers. Le Français Michael Marsais est l'un d'entre eux.
Construire les télescopes plus grands, ça a deux avantages. Le premier, c'est que ça nous permet de collecter plus de lumière. Donc ça nous permet de voir des objets plus faibles dans le ciel. Le deuxième avantage, c'est qu'on peut voir des détails plus petits.
Et l'LT va être la crème de la crème.
Ce géant télescope, ça va être la crème de la crème, considère quant à elle l'astronome italienne Eleonora Sani.
Avec nos télescopes actuels, on peut identifier des exoplanètes qui orbitent autour d'autres étoiles. La prochaine étape, ce serait d'étudier l'atmosphère de ces planètes pour voir s'il y a de la vapeur d'eau. Mais pour le moment, on ne peut pas le faire avec les télescopes dont on dispose. En revanche, le géant télescope, grâce à sa plus grande sensibilité, nous permettra de le faire.
Elle le compare même à la chapelle Sixtine.
Cette chapelle Sixtine se trouve dans un lieu magique avec un ciel merveilleux et obscur. Cet endroit, en plein désert, fait partie du patrimoine mondial de l'humanité. C'est pour ça qu'il est très important de continuer à le protéger.
Le désert d'Atacama possède en effet des conditions d'observation exceptionnelles, avec très peu de pollution lumineuse et un ciel dégagé quasiment toute l'année. Laura Ventura, chargée de communication à l'Observatoire européen.
C'est l'un des meilleurs ciels au monde, comparable à celui que voyaient nos ancêtres.
Mais depuis quelques mois, l'inquiétude a gagné la communauté scientifique, car un méga complexe industriel de 3000 hectares pourrait voir le jour à quelques kilomètres seulement des télescopes. S'il se concrétise, il générerait pollution lumineuse, poussière et turbulences atmosphériques.
De par son envergure et sa proximité avec les télescopes, on peut affirmer que l'impact qu'aurait ce gigacomplexe industriel serait dévastateur, irréversible et non mitigable.
L'Observatoire européen austral demande que le projet soit déplacé ailleurs pour préserver la pureté du ciel atacaménien et ne pas entraver le travail du futur géant télescope.
Naïla Derouané pour le reportage. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Lise Rosevey. Élise, voilà, non, je vais attendre quand même. J'allais dire, nous partons d'abord au Canada, où le patron de Shopify, géant du e-commerce, propose une nouvelle façon de recruter.
Tobias Lütke, le PDG de cette plateforme de commerce en ligne, est clair. Avant d'embaucher de nouveaux salariés, il faudra désormais prouver que l'intelligence artificielle n'est pas capable de faire le job. Il a écrit dans une lettre adressée à ses 8000 employés et partagée sur X. Depuis, le poste est devenu viral, vu plus d'un million de fois. Le patron pousse ses équipes à adopter l'IA au quotidien, dans toutes leurs tâches, parce que, dit-il, c'est un multiplicateur de productivité, ça permet d'accomplir 100 fois plus de travail. Les salariés devront aussi désormais expliquer à chaque entretien annuel comment ils utilisent ces nouveaux outils. Le PDG ose même une question, peut-être pour préparer les esprits, à quoi ressemblerait notre entreprise si des agents conversationnels faisaient déjà partie de l'équipe ?
Et nous sommes maintenant au Nigeria avec une chanson censurée par les autorités.
Le titre afrobeat du Nigérian Idriss Abdul-Karim, Tell Your Papa, dis-le à ton papa. Dans cette chanson, le rappeur s'adresse directement au fils du président nigérian Bola Ahmed Tinubu et lui parle de son pays en anglais et en yoruba, l'une des trois langues nationales, mais pas pour en faire les louanges. Le rappeur chante la pauvreté et l'insécurité qui sévissent dans le pays. Make you feel the pains of fellow Nigerians. You fly private jet. Insecurity no be a problem. Et c'est de voyager sans ta sécurité pour vivre la peine des Nigérians. L'insécurité n'est pas ton problème. Voilà ce qu'on peut entendre dans cette chanson. La Commission nationale de radiodiffusion la juge inappropriée, offensante et décide donc de la censurer, comme le permet le code de la radiodiffusion nigérian. Une décision dénoncée par l'artiste, évidemment. Au Nigeria, la vérité et la critique constructive sont toujours considérées comme un grand crime par le gouvernement, écrit-il. En réponse, il invite ses fans à écouter en masse le titre sur les réseaux sociaux.
Et nous partons pour finir en Inde, où des éléphants ont remplacé les avions sur le tarmac d'un aéroport.
Et oui, image surprenante, l'aéroport international de Thiruvananthapuram, au Kerala, a interrompu tous ses vols le temps de 4 heures pour organiser une procession hindoue. Sur la piste d'atterrissage, des éléphants décorés de bijoux dorés, des grands chars en bois, des idoles du temple voisin portés par des centaines de fidèles, torse nu, torche à la main. C'est une tradition là-bas, depuis la construction de cet aéroport par l'ancienne famille royale locale, il y a près de 100 ans. Et même si l'aéroport est désormais géré par une entreprise privée, le cortège continue de défiler chaque année. Il y a plus de 90 atterrissages et décollages chaque jour dans cet aéroport international. Alors c'est une certaine logistique, mais la direction de l'aéroport le confie. C'est une fierté de perpétuer les traditions.
Merci beaucoup Lise. À demain. Nous étions à Liverpool avec le morceau précédent. En voilà un de vrais natifs de Liverpool, mais qui a enregistré à Lagos, au Nigeria. Vous allez reconnaître, vous avez reconnu aux premières notes, c'est les Wings évidemment de Paul McCartney et Jets qui date de 73. Les Wings et Jet sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Je vous dis parce qu'on l'apprend à l'instant, Emmanuel Macron a rappelé l'ambassadeur de France à Alger et il accuse aussi l'Algérie de prendre la responsabilité d'une dégradation brutale des relations bilatérales à la suite, vous le savez, de l'expulsion de 12 fonctionnaires français qui sont en train de retourner vers la France en ce moment. Tout cela développé, bien entendu, dans le journal de 19h. Le Monde à 18h49, c'est Alexandre Dublin.
Fabienne Saintès. Le 18-20.
Et aujourd'hui, Alexandre, vous vous concentrez sur la figure du secrétaire à la défense américain, Pete Hegseth. Et sur sa manie de poser en train de faire du sport depuis sa nomination.
Oui, alors j'exagère un peu, parce qu'à l'heure où l'on parle, Fabienne, ça fait bien 15 jours qu'il n'a pas posté de photos de lui-même en train de faire des squats ou des pompes, ce qui fait très fortement baisser sa moyenne par rapport au mois de mars. Mais au-delà de ce spectacle inspirant de bonne santé cardiovasculaire, ce qui m'intéresse nettement plus, c'est ce que cette pratique de la mise en scène indique de l'image et même de l'incarnation de la fonction militaire à l'ère de Donald Trump.
Et donc si on examine les faits, qui est Pete Hegseth ?
C'est un homme blanc, commandant dans la garde nationale international et présentateur sur Fox News, ayant œuvré dans des associations de vétérans dont il s'est d'ailleurs fait virer à la fois pour mauvaise gestion et parce qu'il se pointait régulièrement ivre-mort à des événements. On pourrait aussi parler des tatouages qu'il exhibe bien volontiers, d'un côté un drapeau américain mélangé avec un fusil d'assaut et de l'autre la devise Deus Vult, tirée des croisades, qui montre bien ce qu'il a retenu de ses déploiements en Irak puis en Afghanistan. Et ce qui est donc intéressant, c'est que c'est ce personnage qui est choisi pour incarner l'appareil de défense américain, malgré son absence totale de qualification pour occuper un poste bureaucratique, comme secrétaire à la défense des États-Unis, où il s'agit de faire tourner une immense administration.
Et donc tout ça va de pair avec un travail quoi, d'effacement ?
Oui, ou en tout cas de relégation des images et des modèles alternatifs à cette image du soldat blanc qu'on croirait tiré de la première moitié du XXe siècle. Et c'est même le centre du projet de Pete Hegseth à la tête de son département. Alors jugé plus tôt, sitôt arrivé, il vire entre autres le chef d'état-major des armées et la chef d'état-major de la Navy, en parfaite cohérence avec un livre qu'il a fait paraître l'an dernier, intitulé « The War on Warriors », où il laissait entendre que l'un et l'autre avaient été élevés à ces postes parce qu'ils étaient respectivement noirs et une femme, tout en faisant par ailleurs effacer des sites internet des armées, les références aux héros militaires américains noirs, latinos et féminins.
Et ça reflète, selon vous Alexandre, une évolution plus profonde dans la culture militaire américaine.
Oui, le titre de l'ouvrage d'Hegseth que je citais donne toute la clé, c'est une focalisation sur les warriors, les guerriers. Ce qui est en droite ligne d'une tendance qui infuse profondément dans la culture militaire américaine depuis des années, ça se traduit notamment par la mise en avant de ce qui s'en rapproche le plus dans les armées de ces warriors, à savoir les forces spéciales, leur philosophie et leur esthétique. Ça se voit très bien visuellement avec la prolifération du look commando, qu'on a parfois appelé tactical, très propre à ces unités d'élite américaines, vous savez, grosse barbe, biceps apparents et lunettes de soleil, bien loin de l'esthétique traditionnelle du soldat rasé de près et la coupe au carré. C'est une tendance qui a pris énormément d'importance depuis quelques années aux États-Unis, notamment par la prolifération de podcasts d'anciens opérateurs de forces spéciales à mi-chemin entre les souvenirs d'opérations plus ou moins vérifiables et les leçons de vie d'influenceurs, toujours dans un style très alpha, voire masculiniste.
Et donc pour vous, c'est un problème fondamental, même du point de vue militaire.
Oui, parce que à quoi s'oppose le guerrier comme figure militaire ? Eh bien au soldat. Qui obéit, qui respecte les ordres et la discipline, aux antipodes de ces figures qui glorifient l'autonomie à la frontière de l'insoumission, qui jouent avec les lignes, voire qui les dépassent franchement. Or, on peut soutenir, je le fais bien volontiers, que ce qui a caractérisé les armées les plus efficaces de l'histoire, de la Grèce antique aux armées napoléoniennes, c'est au contraire l'uniformité, la discipline de groupe, à rebours de cette mentalité d'exception, de force spéciale, littéralement. Or, dans un monde où la possibilité d'un conflit se rapproche de nous, et où il faut donc recruter et attirer, il me semble urgent d'oublier un peu cet univers spécial, fondamentalement toxique et qui infuse jusqu'en France, et de reconstituer une culture plus large et plus inclusive de force normale.
Alexandre Jublin qui fait des petites incursions hors de son podcast Le Collimateur pour être dans Un jour dans le monde tous les soirs. Merci beaucoup.
Merci.
Le mardi, Caroline Gillet frappe aux portes de l'Europe et la voici.
France Inter, le 18-20.
Et Caroline, ce soir, vous nous parlez du nouveau scandale de corruption à Bruxelles après le Qatar Gate. Voici le Huawei Gate.
Oui, chronique garantie sans Trump. Car à force de parler de lui, on a beaucoup moins de place pour raconter les affaires de corruption supposées à Bruxelles. Il y a quelques semaines, les autorités belges ont procédé à plusieurs arrestations de lobbyistes de Huawei, l'entreprise de télécom chinoise. Ceux-ci sont soupçonnés d'avoir offert des cadeaux et du cash à des membres du Parlement européen en échange de prises de position qui leur sont favorables, notamment pour le déploiement de la technologie 5G en Europe. J'ai demandé à Raphaël Kergueno de nous raconter. Il travaille pour l'ONG Transparency International à Bruxelles. Et la première fois qu'on s'était vu, c'était il y a pile un an. Il disait ceci.
C'est le moment vraiment d'essayer d'avoir une bonne fois pour toutes tous les garde-fous, que ce soit sur l'interaction avec les lobbyistes, avec les pays tiers. Il y a des questions de pantouflage ici aussi. Et on a vu en fait qu'il y avait toute une défaillance des systèmes qui devraient être en place au sein du Parlement européen pour essayer de se protéger de ce genre de scandales qui n'ont pas fonctionné.
Raphaël parlait alors du scandale de corruption du Qatar Gate qui avait éclaté en 2021 et qui mettait en cause plusieurs députés européens. Eh bien, patatras, comme on dit, les systèmes en place ont, semble-t-il, une fois de plus pas fonctionné. Je l'ai retrouvé devant le Parlement. Raphaël tente donc de sauver la démocratie européenne. Et il prend aussi des photos de touristes sur l'esplanade. Moi, je n'ai pas tous les jours l'occasion de parler à des Finlandais. Ici, en l'occurrence, trois gaillards massifs. Je leur présente le monsieur qui les prend en photo. Ils disent que chez eux, ils sont moins corrompus. Raphaël répond qu'ici, à Bruxelles, il y a du boulot. Et le gars dit « Ben, merci ». Faut bien que quelqu'un le fasse, le sale travail. C'est donc lui, Raphaël, qui fait le sale boulot de dénoncer les abus et de proposer des réformes.
Après le Qatar Gate, il y avait un processus de réforme qui avait été engagé, qui a initialement été très positif. Et malheureusement, quand on est arrivé au bout du Qatar Gate, on se retrouve avec une réforme en demi-teinte. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, avec ce nouveau scandale qui arrive, je dois vous dire qu'il y a peut-être une certaine lassitude de notre part.
Tu vois, on peut s'asseoir là à côté de ce carton de pizza sale.
Oui, voilà. Il y a quand même eu quelques mesures qui ont été prises immédiatement par les institutions. Donc le Parlement européen et la Commission européenne ont banni les lobbyistes Huawei d'accéder au bureau.
Tous les lobbyistes de Huawei sont bannis donc jusqu'à nouvel ordre.
Si on s'en réfère à ce qu'ils ont déclaré sur le registre des lobbyistes européens, ils avaient des dépenses aux alentours de 2 millions d'euros par an pour influencer la prise de décision au sein des institutions. Et 2 millions d'euros par an, c'est pas rien. Et avec ces 2 millions d'euros, normalement, ça permet justement de faire de la communication, de faire des voyages. Mais évidemment, bon, ça ne devrait pas permettre de faire certains des faits qui ont été reportés dans la presse.
Raphaël dit... Il y a un manque de culture d'intégrité ici.
Alors certes, il y a eu des bonnes avancées, notamment par exemple l'obligation de publier toutes les rencontres avec l'ensemble des lobbyistes. Avant, les rencontres devaient être renseignées, mais seulement si la rencontre avait un trait à un dossier législatif particulier et seulement pour quelques députés qui étaient en charge de ces dossiers législatifs. Et c'est extrêmement important d'avoir ces rencontres parce que c'est là où on peut vraiment voir toutes les dynamiques de lobbying au sein de l'institution, mais aussi de voir qui c'est qui essaye d'influencer la prise de décision. Et puis parfois, même dans le registre que je vois maintenant, on a des députés européens qui ont publié des rencontres avec des représentants de la mission russe à Bruxelles.
Je lui dis, c'est étonnant à quel point ce scandale Huawei a pris moins de place que le Qatar Gate de 2021 dans nos médias.
La presse a été intense, mais peut-être un petit peu moins. On peut le dire, la situation géopolitique est compliquée. On a Donald Trump
qui semble complètement
changer un peu la face du monde au gré des jours. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile pour nous de faire passer le message anticorruption.
Certains députés auraient reçu des virements de plusieurs milliers d'euros et ou des invitations à des matchs de football et ou des smartphones sans les déclarer.
Oui, absolument.
Or, les cadeaux doivent être déclarés et ceux de plus de 150 euros ne peuvent pas être gardés.
Parce que c'est un cadeau à l'institution et pas en tant que personne. Tout doit être déclaré sur un registre de cadeaux qui est d'ailleurs extrêmement difficile à atteindre. Là aussi, peut-être qu'on peut mieux faire sur la transparence.
Bon, vous pensez bien, j'ai été regarder la liste et c'est très savoureux. Il y a une description du cadeau, de qui il vient, à qui il a été offert et s'il vaut plus ou moins 150 euros. Je vous laisse trouver le juste prix des objets suivants. Une robe flamenco et du jambon ibérique. Une assiette avec une image du Sénat égyptien. Des instruments de musique irlandais. Une écharpe d'Albanie. Un modèle 3D en verre de l'Assemblée nationale du Koweït. Il y en a qui disent pourquoi c'est toujours la police belge qui a à faire ce travail. Pourquoi est-ce que ce travail-là ne peut pas être fait au sein des institutions ?
Absolument, hein. C'est parce que les institutions ont aussi les moyens d'enquêter. Hein. Nous avons l'organisme qui s'appelle OLAF.
OLAF, Office Européen de Lutte Antifraude.
L'organisation OLAF était au courant puisque nous l'avions alerté parce que nous avions reçu un email d'un lanceur d'alerte. Et malheureusement, OLAF a dit qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour corroborer les faits. Mais bon, mine de rien, il semblerait que les autorités belges ont trouvé qu'il y avait lieu à enquêter. Et en enquêtant, visiblement, ils ont aussi découvert beaucoup plus de choses.
Du thé vert de Taïwan. Une carte de Rome, une médaille avec les armes de la Bavière, un CD de 11 chansons du gagnant de l'Eurovision 2022. Je me demande avec cette liste si on a le droit aussi, quand on est député, de ne pas garder certains cadeaux qui ont une valeur de moins de 150 euros.
Il y a la possibilité au sein de l'institution de se réformer elle-même et malheureusement, pour le moment, c'est clair qu'il n'y a pas vraiment cette volonté. Il faut absolument gérer ce problème-là et on peut le faire tout de suite.
Ok les gars ? Affaire à suivre. Merci Fabienne.
Moi, le CD des 11 chansons de l'Eurovision, je vais bien le prendre s'il le jette. Allez, Caroline Gillet, merci. À la semaine prochaine.